Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, les Chemins de la Philosophie vous proposent des émissions spéciales cinéma et philosophie. Aujourd'hui, deuxième temps, Mr. Smith au Sénat, de Frank Capra. Ouvrons les rideaux, la séance commence. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça fait de prendre la parole sur le générique du film de Capra ?
Ça donne, il y a un certain entrain.
Ouais.
Ça donne envie de défendre la démocratie ou de se sentir défendu par elle. En tout cas, il n'y a pas de découragement. Je note ça dans ce qu'on entend.
Bon, on a 45 minutes pour vous donner raison. Hein.
Exactement.
Vous êtes professeur de philosophie à l'American University of Paris, psychanalyste et titulaire de la chaire de philosophie de l'Hôtel Dieu, l'auteur de La fin du courage et Les pathologies de la démocratie, aussi Les irremplaçables, votre dernier livre chez Gallimard. Monsieur Smith, c'est Monsieur Tout le Monde ?
Oui, c'est le nom professionnel de la politique, c'est l'innocence et l'idéaliste, c'est le citoyen, tout simplement. C'est aussi celui qui va s'échapper, hein, puisque quand il arrive à Washington, ils sont tous là à le traiter d'imbécile, en gros. Et il se retourne et ah, l'imbécile a disparu. Et donc, ils sont là à le chercher. Donc, on sent déjà que c'est celui qui sera libre au moment où on lui demande de ne pas l'être.
Rappelons aussi qu'il s'appelle Jefferson, ce qui en dit long sur son héritage américain.
Tout à fait. C'est cette alliance de Jefferson et Mr. Smith, c'est-à-dire un grand nom de la politique et puis le nom lambda. Et c'est ça, de toute façon, la démocratie. C'est à l'intérieur d'un seul, la possibilité d'être un citoyen et en même temps un élu. Donc voilà, le meilleur d'entre nous et non pas simplement le meilleur depuis toujours, celui qui a été désigné par la rente, par l'oligarchie, etc. Mais au contraire, le plus grand des hommes au sens où la grandeur est à l'intérieur de nous-mêmes.
Allez, on va suivre Smith dans ses déboires. Tout commence avec la mort d'un sénateur qu'il faut remplacer de toute urgence. Ce sénateur, c'est James Foley. Et vous allez l'apprendre dans cet extrait en VO, mais pas besoin de parler anglais pour le comprendre. James Foley is dead.
Senator Samuel Foley, dead. Yeah, yeah. Died a minute ago here at St. Vincent. At the bedside was state political sidekick Senator Joseph Payne. Yeah.
Hello, long distance. This is Senator Joseph Payne speaking. I want the governor's residence at Jackson City.
Hello? Oh, Joe. Oh, no.
It couldn't have happened at a worse time. Call Jim Taylor. Tell him I'm getting on a plane tonight for home.
Yes, Joe, yes. Yes, right away.
What is it?
Sam Foley's dead.
Great saints.
Of all times, of all times. Foley had to go and die on us.
Who were you calling in the dead of night?
Taylor, my dear.
What's up, Happy?
Sam Foley died tonight in Washington.
Oh, that's too bad.
Et c'est cette mort du sénateur qui va faire basculer le destin de Jefferson Smith, puisqu'on va le choisir pour remplacer un sénateur. En fait, dans le film, on parle de Stooge tout le temps, c'est un larbin, c'est un pion qui va être manipulé par ceux qui vont se servir de lui.
Oui, on cherche effectivement quelqu'un qu'on peut tenir en laisse. Quelqu'un qui va faire ce qu'on lui dit de faire, ce que les autres sénateurs lui disent de faire, les autres sénateurs corrompus, et c'est ce qu'on va tout de suite... En fait, on met le pied dans la démocratie, on met le pied en même temps dans la corruption, à l'instant. Et on met le pied aussi dans toute une série d'agitations et de travestissements des valeurs, parce qu'on vient d'apprendre la mort d'un homme quand même,
oui.
Juste. Et l'autre sénateur dit « Ah, il ne pouvait pas mourir à un pire moment, vraiment !» En gros, on sent que la mort n'est vraiment pas le problème. C'est-à-dire la mort de cet homme-là ne compte pas. Ce qui compte, c'est les tracasseries, la tactique, parce que tout d'un coup, on ne va pas avoir le nombre de votes pour faire passer visiblement un projet, et c'est une catastrophe dans l'agenda, hein, des intérêts particuliers, mais certainement pas une question métaphysique de la disparition de l'un d'entre nous. Donc, c'est voilà, on rentre d'emblée dans... la confrontation à l'intérieur d'une démocratie, c'est-à-dire voilà les conflits d'intérêts, qu'est-ce que l'intérêt général, et ceux qui sont censés représenter l'intérêt général, à savoir les sénateurs, ne le représentent pas nécessairement.
On est d'emblée du côté des maniganciers, ceux qui veulent tout faire pour servir leur intérêt personnel. Il y a ce personnage de Jim Taylor qui apparaît tout de suite, c'est celui qui maîtrise tout, il contrôle tout, qui nomme plus ou moins les sénateurs, qui possède toute la presse, on va le voir dans quelle mesure c'est extrêmement important. Et Le personnage de Smith arrive beaucoup plus tard en réalité. C'est un procédé assez intelligent de la part de Capra qui est de montrer, bah voilà, la démocratie. Je vous mets d'emblée dans le bain du Sénat et on va rentrer dans les coulisses du Sénat. Tout le film va se passer à l'intérieur du Sénat, reconstitué bien sûr par le décorateur de Capra. Et c'est-à-dire que le but n'est pas de se situer de l'extérieur, du point de vue de Monsieur Tout-le-Monde, de l'homme naïf, mais bien de l'intérieur pour, comme vous le dites, montrer que, en fait, à ce moment-là, démocratie et corruption sont synonymes. Et c'est extrêmement audacieux de faire ce film en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, alors que la démocratie est en danger en Europe.
Je pense que c'est même volontaire. C'est volontaire pour montrer précisément qu'on a beau déclarer l'état de droit et défendre la démocratie, et Dieu sait si Capra l'a fait, on n'est pas candide sur le vivier de corruption que ça peut être. Et puis aussi, ça montre la difficulté, si vous voulez. C'est-à-dire que la démocratie, c'est du déclaratif, c'est de l'idéal, c'est des principes, mais c'est aussi in concreto la vérité des hommes. Et Smith va se heurter à cela, parce que lui, il est dans un monde profondément théorique, celui qu'on lui a transmis par la mémoire, par le fait qu'il récite par cœur la Constitution. Il est véritablement du côté des pères fondateurs, mais du souvenir des pères fondateurs. Et il y a la vérité du moment, la réelle politique, d'une certaine manière, et la démocratie, c'est cette combinaison des deux. Et donc, on voit très bien que ça va pas être simple, de fait, pour Smith. Et puis, on voit aussi que tous les autres acteurs qui sont censés éventuellement incarner des contre-pouvoirs ne les incarnent pas nécessairement. Vous venez de citer Jim Taylor qui est le patron, mais qui est, alors vraiment, on pourrait en citer d'autres aujourd'hui qui sont des Xavier Niel ou des comme ça, mais sans faire de la dominem, mais de montrer que on a là d'abord un financier qui a acheté la presse, qui a acheté et qui, de fait, à un moment donné, ou d'assaut ou autre, la question de l'indépendance de la presse, notamment quand il va falloir prendre position ou en tout cas défendre la démocratie au travers de l'intrigue qui va se passer entre Smith et les autres sénateurs, on va voir que cette question de l'indépendance, elle est clé. Et de fait, pour le coup, ce ne sera pas la presse traditionnelle qui sauvera Smith.
Capra est dans une position assez étrange parce que d'abord il veut ce serait dans son intérêt que de défendre la démocratie alors qu'elle est mise en péril par le fascisme qui a lieu sur le continent européen, et en même temps il veut défendre aussi la représentativité, ou plutôt la position de Monsieur Tout-le-Monde au sein de la démocratie, dans un contexte qui est très particulier pour les Américains, qui est celui du New Deal. Roosevelt est au pouvoir, il prône un interventionnisme accru de l'État, ce qui est le pire cauchemar pour les Américains et pour Capra en particulier. Ils défendent l'individualisme contre le fédéralisme. Et donc, dans quelle mesure est-ce que la démocratie, qui par essence est représentative, peut s'exercer dans un tel contexte?
Oui, alors ça, c'est une question en plus spécifiquement américaine, mais qui aujourd'hui évoque pas mal de choses pour nous, qui redécouvrons d'une certaine façon le fait que l'État et la société civile ne sont pas une même chose. Pour les Américains, c'est très important. Il faut faire une théorie limitée du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement, le fédéralisme doit s'occuper uniquement du régalien, mais tout le reste est porté par la vivacité de la société civile. Et c'est vrai que la fonction, alors là, Smith, c'est un peu le Thoreau, parce qu'en plus, il est un peu expert de la vie sauvage.
Henry David Thoreau,
voilà.
Écrivain américain,
et il est le patron des Boy Rangers. Donc en plus, il est non seulement un individu, mais il est aussi porteur de toute une série de valeurs, un brin traditionnel, et qui renvoie à cet état de nature, de spontanéité,
qui est très présent dans les films de Capra.
C'est très présent, c'est un item important, et c'est intéressant parce que nous, on a plutôt comme ça aujourd'hui le sentiment que c'est plutôt la ville, c'est la ville qui porte la démocratie. Et là, tout d'un coup, schlung, avec Thoreau et avec Smith, on découvre que pas du tout. L'état de droit, il est dans la nature, il est dans la forêt, il est dans les mômes et les enfants qui vont faire, un travail auprès d'une crique. Et c'est toute cette naturalité qui vient aussi raconter l'état de droit.
Le thème des enfants est très présent dans le film. Les enfants sont très présents dans ce film. Ils sont présents au Sénat tout le temps, quasiment. Hein, et ce sont les alliés que va se choisir Smith quand il va devoir défendre son projet. Et étrangement peut-être, les enfants, ce sont ceux qui représentent aussi la tradition qui hérite des grands-pères fondateurs de l'Amérique. On va entendre deux extraits. D'abord, les manigances des sénateurs. Vous allez voir en version française pour bien qu'on saisisse tout le contenu de ces magouilles qui sont criantes de cruauté quasiment et d'antidémocratisme. Et ensuite, un extrait assez musical. On entend la voix d'un enfant qui lit la Constitution américaine. Smith se rend deux fois devant la statue de Lincoln quand il arrive à Washington. Ici, c'est la deuxième fois. Et à chaque fois, c'est un moment de pur lyrisme pour Capra. Écoutez le contraste entre ces deux scènes.
Jim, in other words, with this Willow Creek Dam coming up, the man who goes to the Senate and takes Sam Foley's place can't ask any questions or talk out of turn.
Jim, notre projet de barrage va poser un petit problème. L'homme qu'on enverra succéder à Foley ne devra jamais être trop curieux. Il devra me laisser son tour de parole. Il nous faut être absolument sûr de cet homme.
C'est pour ça que je dis Horace Miller. Ce sera un vrai toutou.
Jim, je pense que nous devrions repousser cette affaire. Notre projet peut être débattu lors d'une autre session du Congrès. Ou être abandonné.
Vous n'y pensez pas, ce serait absurde, voyons. Vous et moi avons trop fait pour ça. Et notre projet de barrage est pratiquement admis. Cela grâce à votre habileté. Il suffit que le Congrès vote la loi qu'il concrétisera. On ne va pas se relâcher au moment d'aboutir.
Un nouvel homme dans l'affaire peut déclencher un scandale. Est-ce qu'on peut courir ce risque?
Mais quel risque y a-t-il? Qu'est-ce qui vous arrive, mon vieux? Croyez que je ne tiens nullement à vous faire courir de risque. J'ai le plus grand intérêt à maintenir la réputation que vous vous êtes faite au Sénat. Regardez ça. Cette campagne en votre faveur dans toute ma presse.
Et vous croyez vraiment que les gens vont gober tout ça?
Ben, on ne sait jamais. Après tout, vous êtes notre grand homme politique de l'Ouest, dont le renom ne cesse de croître. Et déjà, moi, je vous vois président.
Jim, si vous croyez à ce point que je suis destiné au plus haut poste, qu'est-ce qui vous retient alors d'abandonner cette histoire?
C'est la logique, voyons. N'oubliez surtout pas, cher ami, que nous avons acheté ces propriétés en sous-main grâce à nos hommes de paille. Que l'on abandonne va sembler curieux. Ça peut mener à faire des enquêtes qui dévoileraient que l'on veut revendre fort cher à l'État ce qu'on a acquis pour rien. Ce qui me semble le plus adroit, c'est au contraire d'accélérer le processus et de pousser au vote des travaux. Il s'agit de faire vite.
D'accord, Jim, de Montmiller, si vous êtes sûr de sa docilité.
J'ai un moyen de le faire marcher aux ordres. Suivez-moi.
The last full measure of devotion, that we here highly
resolve
that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of
freedom,
and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
Le succès de ce film de Capra vient sans doute de la rencontre entre ce qui caractérise le cinéma de Capra, à savoir la rencontre, les conflits entre l'idéalisme et le réalisme, et le film qui porte sur la démocratie. Or, quel est l'enjeu démocratique par excellence, si ce n'est justement la manière de concilier d'un côté l'idéalisme démocratique et de l'autre son exercice, donc le réalisme. Cynthia Fleury.
Oui, c'est exactement ça. Il faut rappeler aussi que Jefferson Smith, les premiers qui vont le désigner au gouverneur, ce sont les enfants du gouverneur, puisque le gouverneur est à table et il est en train de se tordre le ventre en se disant « Mais mon Dieu, qui vais-je nommer ?» Et il est pris au piège et les enfants tout de suite disent « Mais non, mais c'est... »
Alors ils sont 12 à table,
ils sont très nombreux,
et tout le monde soutient Jefferson Smith parce que justement, il représente, il est du côté des scouts, des boys scouts.
Exactement, il est le patron des boy rangers et ils disent « Mais il est génial, il faut absolument... » Alors, il ne connaît absolument pas Jefferson Smith, mais on comprend voilà d'emblée qu'il y a les gardiens du temple qui sont les enfants. Et d'une certaine manière, qui sont, est-ce qui est vrai, ils incarnent l'espérance démocratique et encore l'innocence. Et puis les adultes qui sont pris au piège là dans cette confrontation avec les enfants. Et on verra que ça aussi, cette confrontation entre l'idéal et le réel, les adultes et les enfants, le noir et le blanc. Bon, de toute façon, toute cette organisation de la controverse et même de la binarité chez Capra, c'est tout à fait important. Mais c'est la vérité, vous avez raison, c'est la vérité de la démocratie. Il y a une condition profondément déceptive et on va aller dans la déception. Parce que Dieu sait si Jefferson Smith va se faire vilipender, lyncher par la presse. Il est même accusé d'avoir volé les économies des enfants. Donc le truc se retourne totalement contre lui. C'est d'une très très grande violence, cette diffamation qui s'exerce à son encontre. Et en même temps, jamais il ne perdra l'espoir dans la démocratie. Notons quand même que, et c'est peut-être là aussi une manière assez réaliste de Capra, qui est tout sauf candide, c'est que Jefferson Smith devra quand même sa liberté à la remontée de conscience chez Payne, parce que tout d'un coup, il y a le remords qui atteint l'autre sénateur.
Il faut quand même attendre 1h58, c'est-à-dire la toute fin du film, pour que le remords arrive chez le sénateur.
Et je ne sais pas si aujourd'hui le remords viendrait sauver.
Est-ce que c'est ça la différence? Parce que quand on a entendu l'extrait de la manigance, les manigances des sénateurs qui se trouvent au début du film, il est question de barrage, et en effet, c'est le barrage qui sert d'écran pour camoufler ces magouilles, pour que Jim Taylor puisse en mettre plein les poches tout en feignant d'être dans l'exercice démocratique le plus irréprochable. On aurait envie aujourd'hui quasiment d'être du côté, dans les coulisses des hommes politiques pour savoir ce qu'ils se disent à ce moment-là. Il y a un écho très fort avec cette campagne présidentielle que nous sommes en train de vivre, pour la nommer. En revanche, c'est vrai, vous citez cette rédemption finale ou le remords de Payne, un des sénateurs, qui va contribuer à faire chuter Smith, tout en voulant le protéger parce qu'il se considère comme étant son père. Il connaissait très bien son père d'ailleurs, il le considère comme son enfant. Et bon, voilà, il y a une espèce de tentative de suicide avorté et finalement un coup d'éclat qui va conduire à un retournement final. C'est là où finalement peut-être le film est le moins réaliste.
C'est là où le film est à la fois le moins réaliste dans ce retournement-là et le plus réaliste dans le fait que s'il n'y a pas ça, on se demande bien qu'est-ce qui sauverait ce pauvre Jefferson Smith. Donc je dirais que voilà, tout dépend comment on veut le voir. C'est effectivement, il a sauvé les apparences tout en soulignant l'insuffisance, c'est-à-dire que très souvent, les démocrates ne sont pas les plus à même de défendre la démocratie. Et c'est toute la violence que l'on peut considérer par rapport à l'état de droit. Alors ce sont des combats qui ne se gagnent pas à l'instant T. Peut-être que le fait que Jefferson Smith tienne pendant des heures la parole fait que plus tard, d'autres seront inspirés par lui et éventuellement lui sera sacrifié. Le film ne le sacrifie pas. La vérité, en revanche, dans la vie quotidienne, c'est qu'il y a énormément de sacrifiés sur l'autel démocratique.
C'est un film sur la prise de parole démocratique. On va y venir, parce que c'est surtout dans la deuxième moitié du film. Avant que Smith prenne la parole, il va rencontrer sur son chemin un autre obstacle de taille qui est censé être un allié démocratique, qui en fait est un obstacle, c'est la presse. Écoutez la rencontre entre le sénateur Smith et la presse locale.
Boys, meet Senator Smith.
You act like a man with something on your mind.
Why don't you tell the people the truth for a change?
À ma droite, Jefferson Smith.
Vous paraissez avoir une idée bien arrêtée.
Pourquoi ne dites-vous pas la vérité dans vos journaux?
Quelle vérité?
Monsieur veut la vraie vérité?
Monsieur veut la vraie vérité?
La vérité toute nue, celle qui sort du puits, donc qui n'aura pas été travestie ni fardée.
Et on vous la sert avec des croissants sur un plateau.
La plupart des gens croient malheureusement tout ce que vous leur dites.
Et alors? Ce matin, ils ont pu lire qu'une sorte de pitre sans aucune référence se présentera au Sénat afin d'y recevoir l'investiture de ses pairs.
Allons, calmez-vous.
Si vous vouliez bien vous montrer honnête autant qu'habile en belles paroles.
Honnête? Mais nous sommes les seuls, en fait, qui puissions faire preuve d'honnêteté. Il n'est point nécessaire que nous ménagions nos clients pour être réélus.
C'est nous qui mettons le public en garde quand des branquignoles veulent faire la loi.
Et pour dire la vérité, qu'allez-vous faire au Sénat?
Oui.
Savez-vous comment s'élabore une loi? De quoi ont besoin les gens?
Je ne sais pas encore, non.
Alors que venez-vous faire au Sénat?
Pourquoi il y siège? Pour toucher ses appointements.
Ah, ben voilà.
Lorsque le pays a avant tout besoin à sa tête d'individus courageux autant que capables, lui, il se contentera d'assister aux séances comme un fonctionnaire.
Oui, mais il votera, rassurez-vous, exactement comme on le lui dira. Ce qu'on lui dira, comme un béni oui-oui, à tous les coups il votera. Oui. Il croit être devenu sénateur. Vous n'en êtes que l'ombre. Un figurant, on pourrait dès maintenant vous empailler.
Soif, sénateur, vous m'excuserez, je n'ai pas de paille.
Ça ne fait rien, ce sera moins dur à avaler que la vérité.
Thank you.
la vérité, le mot est lâché par les journalistes. Alors, il s'agit évidemment de tout sauf de la vérité. Alors, bien sûr, on attend de la presse qu'elle exerce sa liberté dans un pur exercice démocratique. Or, là, évidemment, il ne s'agit pas du tout de l'expression de l'opinion publique, mais de l'expression de la mainmise du pouvoir. Donc, tout est biaisé d'emblée.
Alors, c'est vraiment une scène très intéressante parce que c'est un jeu de miroir assez compliqué dans la mesure où la presse se comporte mal envers Jefferson Smith. Se comporte mal d'abord parce qu'il l'accuse d'être un incompétent. Très bien, mais la compétence n'est pas un critère en démocratie. Donc on a le droit d'être un individu
lambda.
Comment
ça, la compétence n'est pas un critère?
Non, la compétence n'est pas un critère. Vous ne votez pas parce que vous êtes compétent. Vous votez parce que vous êtes un individu. C'est très très important.
Non, mais dans la représentation, on vote pour des gens compétents.
Oui. Oui, bien sûr.
Enfin,
mais en tout cas,
j'espère.
Oui, mais vous comprenez que c'est compliqué parce que on vote et on peut ne pas être compétent et on voterait soudainement pour de la compétence. Donc c'est compliqué. Mmh. Le choix est libre et dessaisi de la compétence. C'est une exigence, bien évidemment. La compétence n'est pas un critère obligatoire. Et par ailleurs, quand vous aspirez à devenir un élu, vous pouvez au départ être un non-professionnel. Vous prenez les premières pages de Rousseau, c'est pourquoi je m'intéresse à la Constitution, parce que précisément je n'y connais rien. Ah bon? Très bien. Donc c'est un critère, hein, le grand généraliste, celui qui n'est pas le spécialiste, ce n'est pas la confiscation par les experts. Et c'est important de le redire, même si ça c'est désagréable à entendre, mais en même temps, bien évidemment, l'exigence de la démocratie, elle fait tout pour, c'est de construire le consentement éclairé, et c'est d'avoir bien évidemment une logocratie, hein, d'avoir une raison, si possible, partagée par tous, et une rationalité publique qui est construite par tous. Mais je reviens sur le jeu de miroir parce que c'est intéressant. La presse fait d'une certaine manière déjà de la diffamation en lui disant « oui, vous allez être un toutou, vous allez être ceci, vous allez être cela ». Lui, bien évidemment, dans son cœur, Smith, pas du tout. Il est là au contraire pour faire son travail. Mais en même temps, elle lui révèle une vérité. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle dit un mensonge à son sujet, mais en même temps, elle lui révèle la situation qui va faire que Smith va basculer et se dire « mais ils ont raison, en fait c'est insupportable, il me crie mon insuffisance, mais en même temps c'est vrai que je n'y suis pas. Et il faut absolument que je commence à m'intéresser beaucoup plus à ces lois, et donc c'est ça qui va faire aussi le revirement de Smith, c'est-à-dire que ça lui fait honte ce que la presse dit de lui, alors que bien évidemment la presse va plus loin, c'est-à-dire qu'elle fait un acte de diffamation, mais en même temps, elle lui révèle une situation de supercherie dans laquelle il est, et c'est ce qui va faire qu'avec Clarissa...
En rentrant, du coup, il retourne dans son bureau,
et sa secrétaire
assistante va l'aider à l'élaboration d'une loi, il décide de créer un camp pour que les garçons se retrouvent en vacances.
Voilà, son attaché parlementaire, nous
voilà,
pourrions dire
exactement.
En ce moment, mais qui visiblement...
Travaille beaucoup.
Et visiblement pas nécessairement au même type de rémunération, mais elle est clé dans ce système puisqu'elle est son premier partenaire. Et puis on a Smith qui va dire voilà, la liberté est trop précieuse pour n'être que dans les livres. Et à ce moment-là, lui veut absolument porter une loi, s'investir, prendre la parole, alors que jusqu'à présent c'était quelque chose qui était assez lointain, hein. Donc la presse à la fois est terrible et en même temps voilà, fait basculer aussi le film.
C'est peut-être juste au moment où la presse, que ce soit la presse ou la justice ou des pouvoirs qui ne sont pas dans la représentation gouvernementale, quand ces pouvoirs-là exercent leur influence, que les sursauts, les réveils démocratiques ont lieu. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, la presse est entre les mains du sénateur Jim Taylor, ce que Jefferson Smith ne sait pas à ce moment-là. Mais en fait, peu importe, parce que c'est l'effet exercé par la presse qui importe.
Tout à fait, c'est exactement ça. comme si, d'une certaine manière, l'état de droit surgissait malgré tout. Vous savez, comme la vie qui surgit alors que y a, tout est bétonné et que c'est impossible de voir une plante verte arriver. Bah, le souffle fait que, malgré les supercheries, malgré les simulacres, malgré la corruption, quelque chose se fait que, tiens, Jefferson Smith va être dans une position de réveil, de vigilance. Mais encore une fois, c'est plutôt un film dur sur la presse, sur sa non-indépendance, sur le fait qu'elle est muselée par un mania des finances, et que, bien évidemment, c'est insuffisant. Et c'est l'horizontalité qui vient par un petit journal des Boy Rangers, qui ont leur feuille de chou, etc. Alors là, avec quelques ellipses compliquées, parce que tout d'un coup, la feuille de chou est publiée à 1 million d'exemplaires. On se demande comment, sur quelle presse, etc. Hein, bon, donc ça, c'est aussi des petites facilités et des manières de sauver le soldat Smith. Mais ça montre que c'est pas inintéressant aujourd'hui sur la question des réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire, ça fait écho aujourd'hui à la puissance d'autres types de réseaux qui sont pas les médias traditionnels et qui éventuellement seraient moins sous l'emprise des financiers.
Alors, la question de la vérité ou non dans la parole politique est présente tout au long du film, mais évidemment, il fallait pas attendre ce film pour que cette question soit posée frontalement chez les philosophes notamment. On va entendre un texte d'Anna Arendt dans La crise de la culture, qui s'intitule Vérité et politique d'ailleurs, qui paraît en 61, donc après le film, et qui a le grand mérite de formuler exactement les problèmes des mensonges et de la vérité dans l'exercice démocratique. Écoutez.
Les mensonges ont toujours été considérés comme des outils nécessaires et légitimes, non seulement du métier de politicien ou de démagogue, mais aussi de celui d'homme d'État. Si nous concevons l'action politique en termes de moyens et de fins, nous pouvons même parvenir à la conclusion, qui n'est paradoxale qu'en apparence, que le mensonge peut fort bien servir à établir ou à sauvegarder les conditions de la recherche de la vérité. Et les mensonges, puisqu'ils sont souvent utilisés comme des substituts de moyens plus violents, peuvent aisément être considérés comme des instruments relativement inoffensifs dans l'arsenal de l'action politique. Les chances qu'a la vérité de fait de survivre à l'assaut du pouvoir sont effectivement très minces. Elle est toujours en danger d'être mise hors du monde par des manœuvres, non seulement pour un temps, mais virtuellement pour toujours. Les faits et les événements sont des choses infiniment plus fragiles que les axiomes, les découvertes et les théories, même les plus follement spéculatives, produites par l'esprit humain. Ils adviennent dans le champ perpétuellement changeant des affaires humaines, dans leur flux où rien n'est plus permanent que la permanence relative, comme on sait, de la structure de l'esprit humain. Une fois perdus, aucun effort rationnel ne les ramènera jamais.
Senator, I was just passing through. I thought I'd like to meet you.
Sit down. You met all the boys here, I suppose.
Yes, sir.
Bonjour, Jeff. Entrez donc. Alors, vous avez parlé à Taylor?
Il dit que ça fait 20 ans qu'il vous donne des directives. Je l'ai traité de menteur.
Décontractez-vous, Jeff. Prenez donc un fauteuil, voulez-vous?
Non, je n'ai pas envie d'être décontracté.
Oh, je sais quels peuvent être vos sentiments. J'aurais tant voulu vous épargner tout cela. J'avais espéré vous voir visiter les grands sites, vous plonger dans l'histoire, reprendre vos occupations, car vous viviez dans un monde d'enfants, Jeff. N'en sortez pas, je vous en conjure. C'est un monde d'hommes ici, Jeff. C'est un monde brutal. Votre place n'est pas ici. Vous y serez écrasé. Suivez mon conseil. Oubliez Taylor, ce qu'il vous a dit. Oubliez ce que vous avez appris sur le barrage de la rivière.
Mais ce n'est pas là la réponse à ma question. Est-ce que Jim Taylor est en situation de vous dicter votre comportement à vous et aux autres?
Jeff, écoutez-moi bien. Et faites un effort pour comprendre. Je sais qu'il est pénible de se heurter à certains faits. Cependant, comme je vous le disais, ce n'est pas ici un monde pour les enfants. On doit laisser ses illusions à la porte comme on le fait de ses sabots. Je vous dirais d'ailleurs qu'il y a 30 ans, j'étais comme vous un idéaliste. J'étais tout comme vous. J'ai été amené à prendre la même décision que vous avez à prendre aujourd'hui. Et je l'ai prise. J'ai accepté de transiger. Parfaitement. De façon à ce que toutes ces années, je puisse rester au Sénat afin de continuer à servir le public de mille et une honnêtes façons. Ce n'est pas la peine de se voiler la face. Est-ce que je n'ai pas bien servi notre État pendant ce temps-là? Nous avons le moins de chômeurs et les plus fortes subventions fédérales. Seulement, j'ai dû accepter des compromis. Il a fallu que je joue le jeu. Le vote des gens, on ne peut pas compter dessus. D'ailleurs, la moitié du temps, ils ne votent même pas. Ce n'est pas autrement que de tout temps, on a bâti des États et des empires. Vous ne comprenez pas ça? Voilà, Jeff. Je n'aurais fait que vous dire la vérité. C'est ainsi que sont les choses. Maintenant, si je vous dis tout cela, c'est parce que je vous aime bien. C'est un peu comme si vous étiez mon fils, mon élève. Et je ne veux pas que vous soyez écrasé. Aussi, lorsque demain on statuera sur ce projet de loi de grands travaux, abstenez-vous d'intervenir, ne dites pas un mot. D'énormes forces soutiennent ce projet, vous seriez mis en pièces avant de parler. Pour votre propre bien, Jeff. Et au nom de l'amitié que je portais à votre père, faites le silence. N'intervenez en aucune façon.
Cette grande leçon de courage politique qui consiste à se taire pour dire la vérité, soi-disant Cynthia Fleury, c'est le sénateur Payne qui l'énonce. Nous sommes au milieu du film, donc Mr. Smith au Sénat, hein, dans le cadre de cette semaine, cette série d'émissions sur Frank Capra, dans les chemins de la philosophie sur France Culture. Il est 10h30 et vous allez nous dire, Cynthia Fleury, comment on passe ici de la vérité nécessaire à la démocratie, cette exigence de vérité, à ce travestissement de cette même vérité qui semble, si on lit à Hannah Arendt, assez constitutif de la démocratie.
Totalement.
Ça rend pessimiste.
Alors, ça rend pessimiste, oui.
Capra était beaucoup plus pessimiste que ce qu'on dit d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Alors, le texte d'Arendt, il est très important puisqu'il montre l'usage politique du mensonge. Arendt, c'est du côté de Machiavel, entrer au mal si c'est nécessaire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'entrer au mal pour faire le mal. Il s'agit d'entrer au mal si c'est pour faire le bien. Et d'ailleurs, c'est une prérogative du leader politique de savoir quand est-ce qu'il peut franchir une ligne, quand est-ce qu'il peut dissocier les moyens et les fins. En tout cas, c'est comme ça que la pensée de Machiavel se pose. C'est aussi comme ça que Constant défend, c'est-à-dire le
Benjamin
mensonge.
Benjamin
Constant, le mensonge par humanité. C'est Jean Kélévitch qui va dire, mais à qui je le dois ce... Est-ce que je dis la vérité au nazi qui vient me demander si je cache un juif? Non, bien sûr. Donc, d'un côté, vous avez les Kantiens qui vont défendre un impératif catégorique indépassable, on ne ment jamais. Et puis, de l'autre côté, vous avez, pour différentes raisons, tous ceux qui interrogent le contexte, tous ceux qui interrogent l'éthique de responsabilité. Et effectivement, la vérité, en fait, n'est pas simplement un contenu. La vérité, c'est un jeu relationnel. La vérité où, comment, avec qui, pour quelles raisons, etc. Et c'est une vérité de dire cela, bien évidemment. Et en même temps, on comprend bien l'instrumentation de cela, parce que jusqu'où le compromis, jusqu'où la négociation. Là, vous avez le dialogue entre Payne et Smith. Alors bien sûr, Payne lui dit d'ailleurs cette phrase extraordinaire. Vous savez, le vote des gens, on peut pas compter dessus. Mmh. Hein, c'est-à-dire, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. D'abord, ils votent pas. Et puis de toute façon, quand ils votent avec leurs pieds. Et donc, ça aussi, c'est un vieux, une vieille comment dire, idée qui n'a jamais quitté la démocratie, à savoir que le peuple, mon Dieu, si on peut avoir le moins d'affaires possible avec cette chose-là, c'est mieux, parce qu'on va préserver ainsi la qualité de la décision politique. La représentativité, c'est aussi ça, c'est pas simplement la conquête de dire, tiens, je délègue à un autre parce que moi, je peux me replier sur ma vie et ne pas perdre mes droits. Parce qu'il y a aussi cette dimension de conquête dans la représentation, mais il y a aussi, bien évidemment, la défiance que les élites ressentent par rapport au peuple en considérant que, mon Dieu, soit c'est une tyrannie de la majorité, soit c'est tout simplement...
Le règne de l'ignorance.
Le règne de l'ignorance, de l'incompétence, c'est la plèbe. Et que, bien évidemment, il faut au contraire créer des corps intermédiaires qui nous mettent loin de tout cela. Il n'y a pas de réponse. La question, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Mais en revanche, c'est vrai, il y a des modifications. Aujourd'hui, le règne d'une transparence de plus en plus forte, d'une mise à nu de la probité publique, de la volonté de toute une démarche pour l'open data, pour la data publique, pour le fait d'ouvrir comme ça la boîte noire, d'une certaine manière, de la démocratie, elle est quand même extrêmement présente. On n'est plus au 18e, au 19e et même, en amont de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une volonté d'expertise plus forte, de collégialité plus forte, de participation plus forte de la part des citoyens, et donc d'une formation. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est quelle juste combinaison, c'est-à-dire à la fois ne pas renoncer à la représentation, qui a aussi toutes ses qualités, mais améliorer la représentativité de la représentation et en même temps la combiner avec des instances participatives qui accompagnent, réceptionnent l'initiative des citoyens, voire leurs compétences. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait utiliser, par exemple, en amont de lois qui sont d'abord présentées et ensuite votées à l'Assemblée nationale, on pourrait tout à fait avoir... pendant un certain temps, utiliser le net ou d'autres endroits pour recevoir des amendements des citoyens et éventuellement les mettre au vote, en tout cas les faire entendre dans l'enceinte parlementaire. Vous voyez, donc on est aujourd'hui dans une obligation, je crois, de créer des nouveaux outils précisément pour faire face à cette aporie de quelle est la juste place de la vérité à l'intérieur de la démocratie, sachant que la démocratie n'est pas un régime de vérité, heureusement, parce que de toute façon, dès qu'on pose une vérité, on se pose comme infaillible, et donc on flirte avec le dogmatisme.
C'est la fin de la discussion, de la conversation.
C'est la fin de la discussion. Mais en revanche, on est dans une fabrication de ce que on tente de dire quelque chose de vrai, et c'est ce régime de mise en concurrence, dit Foucault, des régimes de véridiction qui s'appelle l'état de droit.
Mais cette exigence de transparence et cette demande de vérité de la part de l'opinion, elle était déjà présente à l'époque, même si elle avait peut-être moins de moyens d'expression, et à cet égard, ce film de Capra a un côté extrêmement subversif et courageux, je le redis, on peut quasiment... aujourd'hui, ça ferait figure de lanceur d'alerte, ce film de Capra.
Tout à fait. De toute façon, il y a une dimension chez Capra de lanceur d'alerte. Au sens d'abord où je pense qu'il considère, comme encore une fois Thoreau et d'autres, que la conscience individuelle est le socle de la conscience de l'état de droit.
C'est ça, que l'individualisme n'est pas incompatible avec la démocratie, au contraire.
Voilà.
Ça, c'est la grande leçon des transcendantalistes américains, notamment.
Exactement, c'est-à-dire que là, on a vraiment ce que d'autres pourraient appeler plutôt l'individuation, plutôt que l'individualisme, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas du tout dans un repli sur leur petite sphère familiale, mais au contraire des individus qui, par leur engagement extrêmement courageux, offensif, au contraire, participent de la durabilité de l'état de droit.
Courage est un grand mot. Et je n'entends pas par là l'audace de l'aventurier qui risque joyeusement sa vie pour être aussi profondément et intensément vivant que l'on peut l'être en face du danger et de la mort. La témérité n'est pas moins en rapport avec la vie que la lâcheté. Le courage, que nous considérons encore comme indispensable à l'action politique, et que Churchill a nommé un jour la première des qualités humaines parce qu'elle est la qualité qui garantit toutes les autres, ne satisfait pas notre sens individuel de la vitalité. Mais il est exigé de nous par la nature même du domaine public. Car ce monde qui est le nôtre, par cela même qu'il existait avant nous et qu'il est destiné à nous survivre, ne peut simplement prétendre se soucier essentiellement des vies individuelles et des intérêts qui leur sont liés. En tant que tel, le domaine public s'oppose de la façon la plus nette possible à notre domaine privé, où dans la protection de la famille et du foyer, toute chose sert et doit servir la sécurité du processus vital. Même de quitter la sécurité protectrice de nos quatre murs et d'entrer dans le domaine public, cela demande du courage. Non pas à cause des dangers particuliers qui peuvent nous y attendre, mais parce que nous sommes arrivés dans un domaine où le souci de la vie a perdu sa validité. Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable parce qu'en politique, ce n'est pas la vie, mais le monde qui est en jeu.
It's a funny thing about men, you know. They all start life being boys.
J'ai remarqué chez les hommes un fait assez curieux. Tous un jour ont été des enfants pas plus haut que ça. Je serais terriblement surpris qu'il y ait quelques sénateurs qui n'aient pas été un enfant. Et c'est pourquoi ça me semble une excellente idée de faire que tous les enfants des villes surchargées, sales et bruyantes puissent passer 2 mois par an dans la nature. 2 mois de vie véritable pour qu'ils affermissent leur corps et leur esprit, ne serait-ce que parce que parmi eux, il y en a qui deviendront des sénateurs et qu'ils feront peut-être mieux que de piquer du nez sur leur pupitre. Ce sont des enfants de toute race, de toute condition qui se rencontreront. On en fera un amalgame, dans une fraternelle réunion. Et ils apprendront réciproquement comment ça fonctionne dans la petite tête des autres. Parce que je ne donnerais pas cher de tout votre système sophistiqué de loi si pour aider sa mise en œuvre, on n'y apportait pas à tout instant un peu de gentillesse et de conscience. Et surtout, la considération due aux aspirations du voisin. Je pense que l'important se situe là. C'est cela le principe de base, l'ossature de la vraie démocratie telle que de grands hommes l'ont révélée et transmise à leurs compatriotes. Mais si vous voulez construire un barrage à la place logique de camp pour enfants et toucher pour cela des pots de vin parce que vous faites partie d'une coterie, c'est différent. Ah non ! Si vous croyez que je vais la tête basse retrouver ces enfants qui espèrent en moi et leur dire d'un ton désolé, oubliez toutes les promesses, oubliez ce que je vous ai dit à propos de ce grand pays dans lequel vous vivez, c'était des racontars. La vérité, c'est que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez Jim Taylor. Ah que non, ce n'est pas mon style. S'il en est parmi vous qui se l'imaginaient, ils devront réviser leur jugement. Ce n'est rien, je tenais seulement à savoir si vous aviez toujours des visages. Oh, je m'excuse, je suis désolé, messieurs. Je sais que j'ai manqué grandement au respect dû à cette assemblée, je le sais et je le regrette. D'ailleurs, un garçon comme moi n'aurait jamais dû être autorisé à avoir sa place ici, je le reconnais. Et je déteste être là à discourir et à abuser de votre patience, seulement... Ou bien j'ai absolument raison, ou je suis fou allié.
Vous ne voudriez pas mettre cela au voir, mon cher sénateur.
Alors ça y est, le sénateur Smith a fini par prendre la parole, c'était difficile. Hein. Cynthia Fleury, on l'a entendu, d'abord bafouiller, se racler la gorge, et puis il a compris qu'il pouvait, en faisant référence à la Constitution, garder la parole. Donc il la prend, et il la garde, et c'est l'occasion pour lui de faire ses discours déclamatoires et lyriques hein, sur la démocratie elle-même, avec une notion très importante pour Capra, et à la base même de la démocratie telle que Smith l'entend, c'est la considération de nos voisins, la prise en compte d'autrui à égalité, sur un plan d'horizontalité qui seul peut venir contrecarrer le pouvoir hiérarchique, celui des sénateurs, mais aussi celui de l'État.
Oui, alors là, on est encore une fois dans la spécificité américaine, mais on pourrait l'ouvrir, parce que ça dit quelque chose aujourd'hui d'un rapport entre la verticalité et l'horizontalité, et la volonté du côté de Smith, précisément de prendre en compte, là il le dit, hein, lui ce qu'il veut c'est défendre une loi qui permet d'avoir un creuset hein, à l'intérieur de la nature pour tous les enfants, pour qu'ils apprennent d'où ils viennent, qu'ils gardent l'espérance dans la démocratie.
Et qu'ils deviennent de bons sénateurs.
Et alors c'est une scène très très intéressante parce qu'effectivement il commence avec, il a le trac, hein, il bafouille, il sait pas, et puis petit à petit on voit aussi l'acte citoyen qui construit l'homme. Et tout d'un coup, petit à petit, il va habiter la fonction, comme on dit, et en même temps, tout en restant l'homme qu'il est, c'est-à-dire avec quand même, il incarne cet idéal. Le texte d'Arendt aussi est très très important.
Oui, l'extrait que j'ai lu sur le courage qu'on trouve dans Qu'est-ce que la liberté, dans Crise de la culture.
Et sur cette différenciation entre le monde et la vie, ce que Arendt veut dire, c'est que voilà, il y a la question du biologique, de l'organique, de ce qui fait qu'on se lève le matin, on se couche le soir, etc. Et puis, il y a ce que nous fabriquons, ce que nous créons, l'œuvre. Et l'œuvre commune, c'est le monde. C'est ce que nous faisons ensemble et qui, précisément, se dessaisit de la réalité biologique parce que ça, d'abord, le monde, il est porté par les vivants, par les morts, par le souvenir des anciens. Il n'est pas précisément porté que par ceux qui sont à l'instant T avec leur intestin. C'est des idées, c'est la constitution et c'est ça, le monde. C'est un mélange de sacrés, d'hommes qui sont dans leur rapport vitaliste à l'instant T et puis, bien évidemment, de toutes les générations futures, hein, de tous ceux pour lesquels on se bat. Et c'est cette différenciation et Churchill est un Jean Kelevitch qui s'ignore puisqu'il dit exactement la même définition.
La première des qualités humaines, c'est le courage parce qu'elle est la qualité qui garantit toutes les autres.
Exactement, c'était la définition de Jean Kelevitch quand il disait vertu cardinale parce que vertu qui rend opérationnelle les autres vertus.
C'est bouleversant de voir comment ce courage qui consiste à prendre la parole est incarné ici, au cinéma. Et c'est peut-être la grande force du cinéma qui n'est pas que l'illustration de concepts hein, ou d'espèces de mise en scène de problèmes politiques sur lesquels on peut discuter à l'infini. On voit comment le corps et la voix même de James Stewart, puisque c'est lui l'acteur, il y a une mise en abîme ici de la représentation d'ailleurs, qui habite la fonction qui est la sienne, et voir comment l'évolution même, à mesure que le courage apparaît, sa voix change et son corps change jusqu'à la chute finale, puisque James Stewart, donc Jefferson Smith, a tellement parlé toute la journée, toute la nuit, qu'il va littéralement perdre toutes ses forces et s'écrouler à terre. Et ce corps qui se tenait si droit, et qui est plus grand que tous les autres d'ailleurs dans le film, qui finit par s'effondrer à quelque chose de bouleversant, qui s'adresse donc du coup pas simplement à la... à la raison chez le spectateur, mais qui l'émeut profondément.
Mais oui, c'est-à-dire que là, on découvre, si vous voulez, que parler, c'est pas parler pour parler.
C'est pas bavarder, quoi.
Voilà, c'est-à-dire parler, c'est s'engager. C'est tout son corps qui est dedans, et on voit l'acte performatif, et puis l'acte régulateur, c'est-à-dire qu'en démocratie, la parole, ce n'est pas simplement, effectivement, un commentaire, un bavardage, c'est une action. C'est une action qui transforme la démocratie. Et c'est très important parce que par le courage de sa parole, il fait face à la violence de la corruption, il fait face à la violence d'une négociation effectivement pas toujours très claire avec elle-même, il fait face aussi à l'indifférence des uns et des autres, parce que tout le monde n'est pas passionné par ce qu'il est en train de dire.
On l'entendait dans l'extrait précédent, on a un sifflement.
Exactement.
En fait, parce qu'il se situe, sa place dans l'Assemblée est derrière les autres sénateurs, donc eux-mêmes ne font pas l'effort de le regarder, donc ils ne voient que le dos des têtes. Et il siffle, tout le monde se retourne, il dit « Ah non, je voulais juste vérifier que vous aviez encore des visages. »
Exactement, ce qui nous rappelle d'ailleurs Lévinas, parce que Lévinas disait voilà, ne pas simplement s'adresser à des dos, mais à des visages. Donc là, on les voit, ils sont tous en train de lire leur truc, ils n'en ont strictement rien à faire. Ça aussi, si vous voulez, ce phénomène de dénigrement de celui qui essaye de prendre la parole pour dire ce qui n'est pas audible par les autres, tout ça, c'est ce qui fait la spécificité de l'usage régulateur de la parole dans la démocratie.
Alors on va entendre cette voix de Jefferson Smith, c'est-à-dire de James Stewart, en version originale, parce que c'est important d'entendre le grain de la voix essoufflée, éraillée d'avoir tant parlé, hein, même pas crié. C'est la fin du film jusqu'à la chute finale, écoutez.
I guess this is just another lost cause, Mr. Payne. All you people don't know about lost causes. Mr. Payne does. He said once they were the only causes worth fighting for. And he fought for them once. For the only reason any man ever fights for them. Because of just one plain, simple rule. Love thy neighbor. And in this world today, full of hatred, a man who knows that one rule has a great trust. You know that rule, Mr. Payne. And I loved you for it just as my father did. And you know that you fight for the lost causes harder than for any others. Yes, you even die for them. Like a man we both knew, Mr. Payne. You think I'm licked. You all think I'm licked. Well, I'm not licked. And I'm gonna stay right here and fight for this lost cause. Even if this room gets filled with lies like these. And the tailors and all their armies come marching into this place. Somebody will listen to me.
Donc la vertu cardinale, c'est le courage, mais aussi l'obstination, Cynthia Fleury.
Oui, puis là, on a une très très belle définition, je crois, de la démocratie, à savoir que c'est une cause perdue, mais c'est la seule cause pour laquelle il faut se battre. Donc c'est vraiment une très très belle définition de ce qu'est l'état de droit, encore une fois.
Merci beaucoup Cynthia Fleury d'être venue nous parler de Mr. Smith au Sénat aujourd'hui.
Merci.
C'était un plaisir de vous entendre. Vous êtes en train de réfléchir à de contempler James Stewart effondré sur le sol. Vous en faites pas, je pense qu'il va s'en remettre. De vous, on peut lire La fin du courage chez Fayard, Les pathologies de la démocratie au livre de poche et Les irremplaçables aux éditions Gallimard. Sur France Culture, Les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Les existences moindres, c'est le beau titre du livre dont vous nous parlez aujourd'hui.
Oui, c'est le titre d'un essai de David Lapoujade qui est paru aux éditions de Minuit. Vous avez raison Adèle, le titre est très beau, mais c'est aussi un très bel essai, et d'abord parce qu'il part d'un philosophe dont on parle peu, Étienne Souriau. De ses premiers écrits dans les années 20 jusqu'à ses derniers textes des années 70, on doit d'abord à Étienne Souriau d'avoir élaboré une esthétique de la philosophie. Non pas une philosophie de l'art, mais un art de la philosophie, un art par lequel chaque philosophie se pose ou s'instaure elle-même, avant de s'exercer dans un champ déterminé. La philosophie, c'est donc un geste, une manière de se poser, mais c'est aussi, et c'est la deuxième chose que l'on doit à Étienne Souriau, une manière de saisir les différentes manières dont les êtres se posent pour leur part. Phénomènes, choses, imaginaires et surtout les êtres virtuels. Toutes ces entités, voilà sa question, existent-elles de la même manière? Certaines existent-elles d'autant plus qu'elles semblent plus réelles? Entre un homme bien réel, comme Fernando Pessoa par exemple, qui se voit pourtant comme une erreur métaphysique, comme privé de la possibilité d'exister alors même qu'on peut le toucher, qu'il endure les épreuves de l'existence, et les êtres virtuels comme les héros qui peuplent le royaume des fictions, ou même encore comme la simple idée d'une fiction. David Lapoujade nous rappelle ainsi comment l'écrivain Henry James pouvait sentir tenir la trame d'un nouveau récit au gré d'une conversation, sans savoir même si cette trame pouvait tenir. Entre les deux, donc, entre le réel et le virtuel, entre un homme et une idée de fiction, qui existe le plus, qui pourrait vouloir exister plus, et même nous, être bien réels comme Pessoa, ne voulons-nous pas exister plus intensément, plus réellement encore? Voici donc ce que l'on doit aussi à cet essai que je trouve génial, de souligner grâce à Étienne Souriau que toute chose, nous y compris, a une existence inachevée, tout est dans le demi-jour. Reste ainsi à savoir comment chacun peut-il exister vraiment, pourquoi l'existence qui nous semble donnée n'est en fait jamais donnée, mais se conquiert pour devenir enfin
si vous
réel.
Le trouvez génial, c'est qu'il est génial, Géraldine.
Il est génial.
Bon,
ça n'est pas virtuel.
Les existences moindres, donc.
De David Lapoujade et aux éditions de Minuit.
Merci, Géraldine, et merci à tous. Les chemins de la philosophie touchent à leur fin. Un grand merci à Livia Garrigue qui a préparé cette émission, ainsi qu'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Nicolas Bouteloup, Olivier Bétard à la réalisation cette semaine, Jacques Hubert à la prise de son aujourd'hui. Mais d'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, sur les bancs du Sénat, pourquoi pas. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain pour la suite de cette série Philosophie et Cinéma. Demain, Certains l'aiment chaud, de Billy Wilder.